Alexis, vous le savez, au cours des derniers jours, depuis le début de notre remplacement commun dans le Club du Matin, passe à travers toutes les équipes de la Ligue nationale au niveau des mouvements qui ont été faits dans l'entre-saison. On a passé en revue les 8 équipes de la section Pacifique depuis le début du remplacement mercredi dernier. On s'attaque maintenant, Alexis, aux équipes de la Centrale.
Ouais, on commence ça avec les Blackhawks de Chicago aujourd'hui qui, évidemment...
Dans un concours de l'équipe qui a le plus d'espoir à faire jouer, là.
Ouais, qui va s'en venir probablement dans les équipes avec le plus grand bassin d'espoir pour les prochaines années. Eux qui ont terminé justement au dernier rang de cette division centrale la saison dernière avec 25 victoires pour 61 points. Donc une maigre saison, c'est toutefois une petite progression là, comparée à la saison précédente. On a amassé quelques points de plus. Toutefois, c'est une cinquième saison là, sans faire les séries pour les Blackhawks. On le sait, on est en plein processus de reconstruction depuis qu'on a échangé un petit peu tout le monde. Et cet été, bien, on n'a pas fait une tonne de mouvements tant que ça non plus là, du côté des Blackhawks. On a laissé partir des vétérans comme Pat Maroon et Alec Martinez notamment, qui lui est parti à la retraite. On a laissé partir aussi Philippe Kourachev qui lui s'est dirigé du côté de San Jose. Et puis bien, il y avait un certain Joseph Veleno qui était avec l'équipe, qui avait été transigé à Seattle avant de devenir agent libre et de signer avec le Canadien de Montréal finalement. Donc pour les Blackhawks, c'est un peu les joueurs qu'on a perdus. Sinon, bien évidemment, on a acquis par voie de transaction justement avec Joe Veleno, Andrei Burakovsky, lui qui reste 2 ans à un contrat de 5,5 millions annuellement, et Sam Lafferty qui se joint un petit peu à titre de joueur de quatrième trio également à cette équipe. Donc c'est, en résumé, là, c'est ça qui est arrivé et qui est parti des Blackhawks cet été. Donc pas tant de mouvements que ça.
On a eu un beau repêchage par exemple parce qu'on avait trois choix de première ronde chez les Blackhawks, un très haut évidemment, le troisième, mais il y en avait aussi un au 25e et au 29e rang. Parle-nous d'abord du premier, Anton Frundell. C'est un espoir suédois qui jouait avec Joe Gardens l'an dernier, qu'on a beaucoup suivi et pour lequel on a énormément d'attentes aussi.
Oui, bien Anton Frundell qui était dans les discussions même pour peut-être sortir deuxième au total. Il y avait beaucoup de pourparlers et de rumeurs avant le repêchage. Finalement, il aura glissé jusqu'au Blackhawks au troisième rang. Frundell qui est un centre de 6 pieds 1, 205 livres. Et c'est vraiment là dans la dernière saison qu'il s'est fait découvrir par les amateurs de hockey. Lui qui justement a grimpé dans beaucoup de listes de repêchage des experts et pour les centrales également de repêchage. Donc l'an passé, lui qui a amassé 25 points en 29 matchs justement avec Drew Garden, 11 buts et 14 passes. Donc pour un joueur de cet âge-là, donc de 18 ans, c'est quand même une belle récolte.
Et, dans lui, une équipe où il jouait avec un autre excellent espoir, Victor Eklund, les deux étaient dans la même équipe. Drew Garden, c'est quand même assez particulier d'avoir deux espoirs qui étaient pressentis pour le top 10. Eklund, finalement, est sorti un peu après le top 10, là, quelque part.
Il est sorti avec le choix que les Islanders ont acquis des Canadiens pour Noah Dobson.
Exact. Mais c'était quand même deux bons espoirs classés en première ronde qui jouaient pour la même équipe. Les deux autres choix en première ronde, Vaclav Nestrasil, ça c'est un check celui-là. Mais Mason West a une histoire particulière, Alexis, quand même, dans son parcours. C'est un ancien quart arrière au football, ce gars-là, donc qui a les fibres d'athlète très développées et qui a finalement choisi le hockey au détriment du football pour lui. Et ça a été un choix de première ronde, mais j'ai hâte de voir ce gars-là. Je l'ai jamais vu jouer au hockey de ma vie, je prétendrai pas le connaître, mais j'ai lu son histoire et le fait qu'il laisse passer là de quart arrière, ça le rend très intéressant.
Ben, c'est certainement un joueur qui est très athlétique, donc lui qui justement avait... Et le pire, c'est qu'il était quand même bon aussi au football, là. Il faisait bien, donc lui qui a vraiment plusieurs talents sportifs, si on peut dire ça comme ça, qui aura finalement choisi, comme tu le mentionnes, de faire une croix peut-être sur le football et de se diriger dans une carrière plus de hockeyeur.
Il doit être meilleur au hockey qu'au football, parce que s'il était du même niveau aux deux, je pense qu'il y aurait plus d'argent à faire dans le football.
Probablement.
Donc, il doit être meilleur au hockey ou croire davantage en ses chances.
Mais ça, c'est un choix très intéressant. Je sais qu'il y avait plusieurs équipes aussi qui étaient intéressées à le repêcher si jamais il avait glissé un petit peu plus loin. Finalement, les Blackhawks auront jeté leur dévolu sur lui au 29e rang de ce repêchage. Donc, une belle récolte là, quand même pour les Blackhawks cette année au repêchage. Et bon, ben écoute, si on regarde là, ce qui devrait... Mais ben en fait, mes attentes pour cette saison avec les Blackhawks...
Elles sont semblables à l'an dernier.
C'est certain qu'il n'y aura pas grand-chose de différent. Ça risque d'être encore un petit peu plus difficile. Toutefois, ça devrait être un peu plus intéressant pour les partisans parce que là, on va vraiment commencer à faire une transition vers la jeunesse. On va laisser beaucoup de place justement au Connor Bedard, au Frank Nazar, Oliver Moore, Landon Slagert en attaque. Et si on regarde la défensive, ben c'est une des défensives les plus jeunes du circuit. T'as Connor Murphy qui est là à 32 ans. Mais si on l'enlève, le quintet de défenseurs qui est là, c'est une moyenne d'âge de 21,6 ans. Donc, c'est très jeune. On parle de gars comme Alex Vlasic, Sam Renzel, Wyatt Kaiser, Artyom Levchunov et Ethan Del Mastro.
C'est une jeune défensive qu'il faut suivre. Et je veux te laisser parler des deux joueurs à surveiller que tu as identifiés, qui sont Frank Nazar et Sam Renzel. Mais moi, j'ai l'impression, je veux juste prendre un petit moment sur Connor Bedard aussi. Comment tu l'as trouvé cette année? C'est un joueur exceptionnel, Connor Bedard. Il n'y a personne qui va remettre ça en doute. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu le gros splash peut-être qu'on attendait de la part de Connor Bedard. Et vous le sentez peut-être dans ma voix, je le dis un peu sur la pointe des pieds, parce que c'est quand même un très jeune joueur encore qui a le futur d'être un joueur exceptionnel. Mais j'ai hâte de le voir cette année, Connor Bedard.
Moi aussi, j'ai hâte de le voir. Et tu sais, faut dire que Connor Bedard, c'est pas un joueur qu'on a su non plus complémenter avec des joueurs d'élite. Là, on n'a pas su l'entourer nécessairement de la bonne façon. Donc, c'est certain qu'il s'est retrouvé vraiment un peu seul là, dans son bassin, justement, dans les deux dernières saisons. Donc, mine de rien, c'est quand même des récoltes de 60 points ou plus à ces deux premières saisons. Mais je suis quand même d'accord avec toi qu'il n'y a pas nécessairement eu le gros splash peut-être que tout le monde attendait. Les attentes étaient tellement élevées dans le cas de Connor Bedard. Et j'irais peut-être pas jusqu'à dire que j'ai été déçu. Mais j'avais peut-être un petit peu plus d'attente cette saison dans son cas. Je me serais peut-être attendu à ce qu'il y ait un plus grand impact sur l'équipe. Mais définitivement, là, cette saison, je crois qu'on aura peut-être une meilleure idée. C'est certain que, tu sais, des fois, les joueurs, on le sait, la gang de la deuxième année, c'est pas nécessairement toujours facile. J'irais pas jusqu'à dire parler de gang dans son cas, mais du moins, peut-être pas la saison qu'on attendait.
Je te laisse poursuivre sur Frank Nazar et Sam Renzel avant qu'on passe sur une autre équipe.
Ouais, on va y aller rapidement. Donc, pour Frank Nazar, ben lui, c'est un joueur qui est intéressant. Et pour ceux qui s'en rappellent, ben c'est le joueur que les Blackhawks ont repêché avec le choix que les Canadiens avaient envoyé dans la transaction de Kirby Dach. Donc, le 13e choix au total en 2022. Lui, c'est un attaquant de 21 ans, 5 pieds 10, 190 livres. Donc, un attaquant plus petit format, mais qui a vraiment été une belle surprise avec les Hawks l'année passée. Je crois pas qu'on l'attendait peut-être aussi rapidement. Lui qui avait commencé la saison dans la Ligue américaine, avait récolté 24 points en 21 matchs. On a décidé de le rappeler par la suite avec le grand club. Et là aussi, là, quand même bien fait, 26 points en 53 matchs. C'est un joueur qui est devenu rapidement l'un des préférés du côté de Chicago, lui qui va être à la dernière année là, la saison prochaine de son contrat de recrue. Donc lui qui devrait aussi voir ses responsabilités augmenter cette saison, voire même peut-être une première vague d'avantages numériques. Donc dans son cas, je m'attends vraiment à voir peut-être une progression offensive dans son cas aussi. Donc ça va être un joueur intéressant à surveiller. Et le deuxième, Sam Renzel, lui qui est le 25e choix au total de cet encart 2022 aussi, donc une bonne cuvée là, en 2022 pour les Blackhawks. Et lui, c'est un défenseur qu'on connaît peut-être un petit peu moins ici parce qu'il a joué seulement 9 matchs avec les Blackhawks l'an passé. Lui qui jouait justement à l'université avant ça. Et lui, c'est un défenseur grand format, 6 pieds 4, 177 livres, mais c'est un défenseur qui est très mobile sur la patinoire, qui a un bon coup de patin, il aime beaucoup se porter à l'attaque également, des bonnes aptitudes offensives. Ça a été une belle surprise, lui, en fin de saison. Là, on lui a donné beaucoup de temps de glace, vu que justement, on n'avait plus rien à aller prouver en fin de saison. On a voulu laisser un petit peu de match pour les jeunes. Donc, lui qui a vraiment laissé une belle première carte là, d'impression à Chicago.
Est-ce que les Hawks de Chicago, maintenant, ça c'est la question en terminant, qu'on peut dire... vont viser vers Gavin McKenna à la fin de l'année. T'imagines si on ajoutait Gavin McKenna à ce lot d'espoir. En tout cas, je leur souhaite pas de malheur nécessairement aux Blackhawks, mais je ne vois pas cette équipe-là dépasser peut-être la 25e position au classement général au maximum.
Absolument pas.
Vont être dans la lutte possiblement pour un Gavin McKenna. Et on est de retour dans le club du matin pour poursuivre la chronique d'Alexis qu'on avait amorcée juste avant la pause. Je voulais qu'on puisse prendre le temps de bien conclure avec sa deuxième équipe du jour. C'est le Mammoth de l'Utah que tu surveilles également aujourd'hui. Alexis, une formation qui est dirigée par André Tourigny. Alors, je pense que tout le monde au Québec a un préjugé favorable pour le Mammoth de l'Utah parce qu'on leur souhaite du succès. Une nouvelle équipe dans un nouveau marché qui va être à sa deuxième année en Utah, mais qui va avoir de la pression quand même cette année. Je pense que c'est une année très charnière dans le processus des ex-Coyotes de l'Arizona. André Tourigny est un excellent entraîneur qui est très bien reconnu dans la Ligue nationale, mais là, j'ai l'impression que le niveau de pression va monter un peu cette année au niveau des attentes peut-être de l'équipe.
Oui, ben je crois qu'on va peut-être essayer d'utiliser l'expression qu'on a utilisée à Montréal l'année dernière, être dans le mix. Je sais pas si on va se rendre en série, du moins c'est certain que ça va être un objectif, mais juste d'être au moins dans le mix comme on l'a été l'an dernier, parce qu'on était tout de même juste à 7 points d'une place en série, donc c'était pas si loin que ça.
Et c'était la meilleure saison depuis longtemps.
Meilleure saison depuis 2013-2014. Ouais. À ce moment-là, c'était les Coyotes de l'Arizona, bien évidemment. Donc, ça va de mieux en mieux là, du côté de l'Utah. Et disons qu'on essaie, on est vraiment en belle progression là aussi depuis quelques saisons vers une transition pour les jeunes. On va avoir un noyau, encore une fois, cette saison qui va être composé de Clayton Keller, Logan Cooley, Dylan Gunter, un certain J.J. Peterka aussi qu'on a été chercher cet été, et Mikhail Sergachev. Donc encore une fois, un noyau qui est plus intéressant que ce qu'on a eu à se mettre sous la dent là, dans les dernières années, avant que cette équipe justement transfère du côté de Utah.
On a donné Michael Kesselring et Josh Doan pour acquérir J.J. Ouais. Peterka, à qui on a donné un contrat de 5 ans pour plus de 7 millions de dollars par année. C'est la grosse acquisition de l'été pour le Mammoth de l'Utah, même si je déteste pas non plus Brendan Tanev et Nate Schmidt à la défense.
Oui, ben J.J. Peterka, moi honnêtement, c'est un joueur que j'adore. Je crois sincèrement que c'est un de mes joueurs préféré dans la LNH qui n'évolue pas pour le Canadien de Montréal.
Parce que tous les joueurs du Canadien sont au-dessus, c'est ça?
J'ai un petit parti pris. Mais je veux dire, J.J. Peterka, c'est un attaquant tellement électrisant. Ceux qui n'ont pas nécessairement la chance de le voir jouer ou de l'avoir vu jouer dans le passé, clairement, vous pouvez le mettre sur votre radar parce que je crois qu'il va très bien faire dans cette équipe de Utah. Il va avoir des grandes responsabilités, on va lui faire confiance, on lui a quand même pas octroyé un contrat de la sorte pour le faire jouer sur un troisième trio. Je peux vous garantir qu'il va jouer sur le deuxième et peut-être même sur le premier trio si tout se passe bien. Il va jouer sur l'avantage numérique aussi. J.J. Peterka, parce que tant qu'à faire, je vais en parler tout de suite vu que c'est un de mes joueurs à surveiller pour cette saison, mais c'est une évolution constante là, dans les dernières années depuis son arrivé dans la LNH. Sa première saison, ça a été 32 points, par la suite 50, et là, il a monté à 68 points la saison dernière, 27 buts, 41 passes, avec un temps de glace de 18 minutes en moyenne par match. C'est un joueur qui a un lancer, un tir du poignet foudroyant, qui est un marqueur naturel, si on peut dire ça comme ça, et j'ai très hâte de voir, honnêtement, on va le jumeler à qui lors du début de cette saison, puisqu'on le sait, justement, on a d'autres jeunes qui sont intéressants, les Logan Cooley, Gunter, Keller, donc je sais pas, il va faire partie de quel trio, mais clairement, ce sera intéressant de le regarder au cours de la saison prochaine. Sinon, mis à part ça, ben effectivement, tu l'as mentionné, on a été chercher des joueurs un petit peu plus d'expérience en Brendan Tanev, Nate Schmidt et également Vitek Vanecek dans le filet. Schmidt et Vanecek, justement, qui reviennent de ce périple en finale de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Donc, on va chercher ici un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et pour Brendan Tanev, eh bien, lui va pouvoir jouer son rôle là, sur la profondeur de cette formation à l'attaque. On lui a octroyé un contrat de 3 ans, 2,5 millions par saison. Et bien évidemment, au repêchage aussi, il ne faut pas l'oublier, mais Caleb Desnoyers, qu'on a repêché avec le quatrième choix au total.
Qui lui a dit en entrevue après qu'il avait l'espoir et qu'il avait l'objectif de jouer dans la Ligue nationale dès ses 18 ans.
Exact.
Aucune idée si ça va arriver. Et ne lui mettons pas cette pression-là qu'il semble lui-même se mettre. Mais c'est un espoir qui affiche très grand ses ambitions de jouer le plus rapidement possible dans la Ligue nationale.
Ben, Caleb Desnoyers, c'est un joueur un peu comme ça. Il a toujours eu du succès partout où il a passé. Il l'aime, il carbure, je pense, on dirait aussi sous la pression. C'est un joueur vraiment qui aime le hockey, qui mange du hockey, qui aime être sur la patinoire. Il se donne lorsqu'il est sur la glace aussi. C'est un joueur qui peut tout faire un peu. Ça va être un petit peu un genre de... Un joueur qu'on va peut-être détester lorsqu'il va jouer dans la Ligue nationale et qu'il ne sera pas pour votre équipe parce que, justement, il va être dérangeant pour l'adversaire, si je peux utiliser ce mot. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire au camp d'entraînement. Est-ce qu'il saura se tailler une place? On verra, mais du moins, si c'est pas cette année, ça va être dans un futur très rapproché. Et là aussi, ben, il aura un rôle très important au cœur de ce noyau pour les prochaines saisons. Si je passe rapidement à mon dernier joueur également que je vais surveiller pour la saison prochaine, puisque les départs, il n'y en a pas eu beaucoup non plus du côté de Utah, à part justement Josh Doan et Kesselring dans cette transaction de Peterka. On a également échangé Mathias Maccelli au Maple Leaf pour un choix de troisième ronde en 2027. Donc, pour ce qui est de mon autre joueur à surveiller, bien, j'ai bien hâte de voir Dylan Gunter cette saison. Lui, qui a été le 9e choix au total en 2021, a vraiment eu une éclosion là, la saison passée en termes de production offensive, a atteint pour la première fois en carrière le plateau des 60 points et il amorce cette saison justement un contrat contrat de 8 ans à 7,1 millions de dollars par saison. Donc, on lui a justement consenti ce contrat parce qu'on le prévoit comme étant un morceau clé à l'attaque de cette formation-là dans ce processus de reconstruction.
Et c'est l'impression qu'il n'y a pas juste toi qui va le surveiller, eux aussi le surveillent là-bas. Là.
100%, 100%. Et c'est un joueur qui, lui aussi, est assez complet, je dirais, offensivement. Même chose un petit peu que Peterka, lui aussi, un tir assez puissant et très précis aussi. La rondelle part assez vite de son bâton. Il peut marquer toutes les façons aussi d'Ellen Gunter. Et clairement, là, lui aussi va être sur le premier avantage numérique, sur le premier trio fort probablement. Donc, et mine de rien, fait à noter aussi, ça a été le 19e meilleur pointeur de la Ligue nationale l'an passé en avantage numérique. Donc
tout
ça, c'est pas rien non plus pour Dylan Gunter. Donc honnêtement, ça va être une saison fort intéressante pour Utah cette saison. Bien hâte de voir ce qu'ils vont être en mesure de faire. Mais clairement, là, c'est une équipe qui, après avoir passé des années dans le fond de la cave lorsqu'on était en Arizona, je crois qu'on est en droit d'espérer à des meilleurs jours là, du côté de Utah.
Rapidement, on les voit à quelle position dans la section?
Ça, pour la division centrale, je vais attendre
la fin du...
Ouais, parce que...
Ça se garde un joker dans son...
Pacifique, je trouve que c'est un petit peu plus facile à prévoir. La centrale, il y a beaucoup de bonnes équipes et surtout en milieu de division, là, je crois qu'il va y avoir une lutte assez féroce. Donc, on va finir le portrait de la division et après, je te ferai mon classement.
On le fera ensemble, ça va me faire plaisir.